La table de Clémence. Chers auditeurs, bienvenue sur RCF. Soyez les bienvenus à mes côtés pour ce tout premier rendez-vous de la table de Clémence. Je suis Clémence Moulinou, je suis cuisinière, pour l'instant en congé parental pour m'occuper de mes deux petites filles, ce qui me donne loisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir interviewer les maraîchers, les producteurs et de vous emmener en balade gastronomique avec moi. Aujourd'hui, nous irons donc rendre visite à Jean-Louis Four, maraîcher au jardin de Batouin entre Gerza et Clermont-Ferrand. Nous parlerons ensuite du quinoa, le produit bio qui fait peur. Nous nous intéresserons ensuite au rendez-vous gourmand de septembre et terminerons par la lecture d'un extrait de Bazar Magyar de Viviane Chocas pour vous mettre l'eau à la bouche et aux oreilles.
C'est facile à faire. Mais ça, c'est des hibiscus. Ça, c'est les trucs de... Les machines de bureau,
On en a
une pour faire la plastification.
Et ça, c'est les hibiscus.
Voilà, ça, c'est des hibiscus qu'on a dans les serres. Donc, on peut faire des choses amusantes. Parce qu'avant, nous, c'était une exploitation qui produisait, qui vendait uniquement en gros. On vendait à des commerçants qui revendaient après des particuliers. Et on faisait aussi des plants de légumes, des plants de fleurs et des légumes. Et bon, le commerce évoluant, on n'avait plus la possibilité de vendre comme on le souhaitait. Donc on a cherché des idées, on a dit, comme on est aux portes de Clermont, on va vendre directement aux particuliers.
Oui.
Et on, voilà. Bon, après, ce qui m'a bien plu dans cette idée-là, c'est que c'était très... ça a amené plein de choses qu'on a, nous, en tant que professionnels, on connaît, mais qu'on n'a jamais diffusées au public, quoi, sur la connaissance des végétaux, sur la manière de les cultiver, notamment aussi pour faire d'initiation pour les enfants. Et puis faire connaître ce qu'on peut connaître dans les bons produits. Pouvoir faire une différence, expliquer que il y a des salades, mais dans les salades, il y a toutes sortes de goûts. Voilà. Et que même sur des produits qui paraissent banals comme une carotte, il peut y avoir différents types de goûts dans des carottes. Il peut y avoir des bonnes carottes et des mauvaises carottes.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, oui, moi là en entrant, j'ai vu qu'il y avait déjà. Des légumes qui étaient déjà cueillis, qu'on pouvait acheter comme ça.
Ça, c'est très particulier tout de suite. C'est juste pour les légumes soit qui sont en fin de culture, qu'on se dépêche de ramasser, puis pour les proposer à la vente. Mais on ne propose pas encore. On est en train de l'étudier pour l'année prochaine. Nous, l'activité est récente, puis c'est la deuxième année qu'on le fait. Et on essaye de trouver les idées qui conviennent. Donc, c'est vrai que pour les années prochaines, on va sûrement mettre en place une sorte d'étal de marché où on aura nos produits qui seront proposés, vendus, ramassés. Pour le moment, c'est pas le cas. Quelqu'un qui vient, qui nous demande des haricots, il prend un panier et va les ramasser.
C'est bien, c'est
voilà.
Très chouette.
Oui, mais bon, il y a des fois où les gens n'ont pas le temps, forcément, et ils souhaiteraient avoir ces haricots-là parce qu'ils savent qu'ils sont frais, mais ils n'ont pas le temps. Donc, voilà. Donc on va le proposer, mais enfin, bon, il faut que nous, on l'étudie après pour l'organisation.
Mais en même temps, c'est une certaine démarche que les gens ont, justement, maintenant. Enfin, vous avez vu une évolution du comportement des consommateurs, c'est ça
qui est,
c'est à ça que vous avez essayé de coller
pour
la cueillette.
Le constat était un peu triste dans la vente des fruits et légumes localement autour de Clermont, parce que ce qu'on appelle une ceinture verte dans les villes, ce qui existe partout, la ceinture verte de Clermont, progressivement, elle avait disparu. Puisque... Le syndicat des maraîchers qui commercialisent leurs produits en gros, de 60 ou 70 exploitations qui devait y avoir dans les années 70, on est passé à 40 dans les années 80, et à une vingtaine pour l'an 2000, et actuellement, il y en a moins de 5.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et ce schéma, on peut même le retrouver pour les exploitations qui produisent des fruits, comme les pommes. Tous les fruits d'Auvergne qui étaient la réputation, mais ça, il y a très très longtemps quand même, pour les pâtes de fruits d'Auvergne. C'était la cour de Louis XIV.
Oui.
Donc, c'est pas... Et ça a perduré quand même jusque après-guerre, malheureusement, dans les années 60. Et puis après, ben, tout doucement, ça a disparu au fur et à mesure que les gens ont arrêté, parce que les fruits sont produits dans des régions où c'était un peu plus facile. Voilà. Mais bon, la qualité qu'il y avait en Auvergne, eh ben, elle n'a pas forcément été retrouvée ailleurs.
Parce que les fruits étaient produits vraiment juste à côté de Clermont-Ferrand, là, pour les pâtes de fruits, justement ?
Oui. Moi, ben, dans l'historique de ma famille, mm-hmm. Quand on regarde les ancêtres, ce qu'ils faisaient dans les albums photos, mm-hmm. mon grand-père faisait des abricots pour vendre à la confiserie, mm-hmm. des abricots très spéciaux qui étaient faits en fruits confits d'Auvergne. À cette époque-là, il y avait sûrement tout un tas d'autres fruits. Il y avait aussi la rhubarbe qui était importante dans la région pour faire des fruits. Mais on imagine difficilement actuellement l'aspect que pouvait avoir la région de Clermont-Ferrand à l'époque où Chamalières, Roya, tout ça était couvert de fruits et de champs d'abricots. Il faut pas, les choses évoluent, on va pas regretter tout le temps le passé, hein, les choses ont changé, il y a des choses qui sont bien mieux maintenant qu'avant. Mais bon, il y a peut-être des fois où on regrette quelques petits points particuliers comme ça. Bon, après, la vie des gens a changé. Alors, ils vivent différemment, ils ont des voitures, ils courent aux quatre coins de la France. Ils voient tout un tas d'autres choses. Mais quand est-ce qu'on parle de la consommation des fruits et des légumes frais, ce qu'on a constaté, nous, c'est que maintenant, dans les magasins, ils achetaient beaucoup moins de fruits frais. Ils achètent des fruits congelés. Mmh. C'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Le tout, c'est de manger beaucoup de choses et varier. Mais bon, quand on préfère manger des pizzas que manger des fruits, une ratatouille, une chose comme ça, c'est quand même un petit peu dommage. Il faut changer. Hein. Un jour pizza, un jour ratatouille. Et ouais, puis voilà. Et donc maintenant que toute cette production locale s'est restreinte, tout ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des jeunes qui s'installent et qui vont produire des légumes, mais plutôt pour les vendre directement aux gens. Mm-hmm. Parce que il y a des fois, on se demande si la consommation des fruits et légumes, maintenant, c'était pas devenu carrément un loisir. On voit à la télé, maintenant, faire la cuisine, c'est un loisir, c'est une activité de développement, ou je sais plus, ouais. Mais c'est plus le but nourricier qu'il avait dans le temps. Nous, notre métier, c'est de produire des légumes, et ben pour produire des légumes, il faut qu'on les produise dans les conditions où les gens vont pouvoir les acheter. Ouais. C'est une chose qui est encore magnifique dans ces métiers, c'est l'artisanat qu'il y a. Quand moi je me promène, la première chose que je fais, c'est je vais voir mes collègues. Et un collègue qui fait des légumes à Lyon, bah, il ne travaille pas comme un collègue qui fait des légumes à Orléans, qui n'a pas les mêmes variétés. Il y a encore des choses différentes, il y a encore des choses à apprendre. Toute cette diversité-là, et bah, il ne faut pas non plus la perdre. Quoi.
Vous dites que ce n'est pas la même façon de cultiver à Lyon, à Orléans, c'est les variétés qui changent ou vous employez des produits
Il ne faut pas aller bien loin. Vous regardez, dans le Cantal, ils consomment plus facilement une rave qui a un collet vert et dans le Puy-de-Dôme, une rave qui a un collet rouge. Ouais. Et ben à Lyon, ils vont manger des cardons, des crônes. À Clermont, ça, on commence à le connaître, mais très peu. Angers, j'ai pas sur le coup, ça me vient pas. Mais il y a encore des particularités. Hein. Dans les dernières années, beaucoup de choses se sont échangées, mais c'est puis même la manière d'y vendre. Aller à Lyon, aller voir un marché de quartier lyonnais, vous allez passer des heures à rien que regarder les étals parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Il y a encore beaucoup de petits producteurs qui font des productions sur les monts du Lyonnais qui ont des diversités et des qualités de fruits très différentes. Mm-hmm. Bon, on a des beaux marchés à Clermont.
Ah oui, quand même, on a aussi des beaux marchés. Hein, ça, c'est sûr.
On peut aller au marché Saint-Joseph à Clermont et puis on va se régaler aussi, on va voir des choses. Mais si on a l'occasion d'aller à Lyon, bah, on peut faire un musée puis faire un marché.
Oh bah de toute façon, moi, c'est pareil. Quand je vais dans une grande ville ou dans une autre ville, c'est passionnant d'aller voir des marchés hein, parce que c'est toujours des ambiances différentes. Mais c'est vrai que sur Clermont-Ferrand, quand même, on a des marchés qui se défendent, heureusement. Hein, même si y en a certains qui se meurent un petit peu, je trouve. Il y en a d'autres qui sont bien actifs. Et justement, heureusement, vous êtes pas mal de producteurs. Vous vendez pas sur les marchés, si
Non, nous, on n'a pas cette habitude. Et ça s'adapte pas tellement à l'organisation de notre exploitation. Mais il y a des collègues, je vous dis, au marché Saint-Joseph, vous allez trouver des choses fabuleuses.
Ouais.
Et donc vous, c'est la famille, c'est depuis la nuit des temps que vous faites des légumes?
Ben on sait pas. Mais enfin, des archives qu'on peut avoir, ça a toujours tourné un petit peu autour de cette activité-là. Ce qui est amusant de voir, c'est que pratiquement à chaque génération, il a fallu trouver une autre manière de produire, faire un autre produit, s'adapter à l'évolution de la demande. Hein. Une époque, c'était la vigne. Il y a de la famille qui faisait de la vigne sur Aubière. Il y a eu un des grands-pères dans l'arbre généalogique qui lui faisait des cannes parce qu'il avait une variété d'arbres qui faisait des cannes avec un enroulement autour qui faisait des très jolies cannes. Donc il y avait, et apparemment à cette époque-là c'était relativement courant des fabricants de cannes, des choses comme ça. Mais ils faisaient des abricots. Alors faire un abricot pour les fruits confits, ça n'a rien à voir avec faire un abricot pour le vendre au détail. Déjà c'est pas les mêmes variétés. Et puis mon père m'expliquait quand il était jeune, pour ramasser un abricot, pour faire un fruit confit d'Auvergne, il faut le ramasser avec deux doigts et le poser dans un cajot en paille, et qu'il n'y ait que les deux doigts qui ont ramassé l'abricot qui soient visibles sur l'abricot. Parce que quand on le ramasse, l'abricot, il a une peau avec des tout petits poils, et c'est très important pour le confiseur, de façon à ce qu'il ait une qualité extraordinaire. Voilà.
Avant, vous étiez situé plus donc dans le centre de Clermont, enfin la famille, c'était...
Voilà, historiquement, il y avait des jardins qui étaient dans le quartier de Ramanès, hein, à côté de la piscine Coubertin actuellement. D'accord. Et puis c'est un quartier qui s'est urbanisé, donc mon père a... le maraîcher dans cette zone-là dans les années 70. Parce que c'est une très très bonne terre ici. C'est une terre de Limagne, donc une des meilleures terres du monde, c'est la terre de Limagne.
Du monde carrément,
c'est du monde. Et c'est prouvé, c'est pas... Les gens rigolent quand on le dit, mais il faut le savoir. Et on reviendra pas là-dessus. Et cette terre, en plus, dans ce qu'on appelle la vallée du Béda, elle a la qualité argileuse et vraiment les qualités extraordinaires de la plaine de Limagne, mais en plus elle est amendée par les limons qui viennent du Béda, qui font que ça adoucit le caractère brut de l'argile, et il y a des conditions de culture ici dans ce secteur qui sont phénoménales, d'autant plus qu'il y a une réserve d'eau, il y a 6 mètres d'eau sous nos pieds, donc on a de l'eau...
Il n'y a rien besoin d'ajouter.
Voilà, on est au paradis des maraîchers.
Et vous êtes nombreux là, du coup, vous disiez que vous étiez 5, 7
Malheureusement, pour l'an 2000, on avait presque une vingtaine d'exploitations, dont sur le département, qui faisaient des légumes en gros, dont une bonne dizaine qui se trouvaient uniquement dans cette route de Sébaza à Gerza. Et actuellement, on est moins de 5 maraîchers à faire cette activité.
Et là, maintenant, donc, vous vous ouvrez peut-être là cette année aux écoles pour avoir des visites et faire un peu de ramassage de légumes, ou comment ça va se passer?
On a bien l'intention, puisque dans l'idée d'expliquer aux clients la manière dont on travaille et leur faire plaisir en montrant les bons produits, de montrer ça aux écoles, de faire des choses pédagogiques pour vraiment que les jeunes voient ce qui peut se faire bien. Malheureusement, on se rend compte que c'est quelque chose qu'il faut faire comme il faut. Donc pour l'année prochaine, ce ne sera pas encore ponctuellement, on fait des visites, il y a des gens qui viennent, mais on n'a pas de proposition pédagogique bien précise encore. Okay. Mais on va l'étudier, et dans l'avenir, il y aura des cours pédagogiques bien précis qui pourront permettre aux instituteurs de venir ici avec un thème particulier, quoi. On est en train d'étudier, par exemple, faire un thème sur la graine ou sur la photosynthèse ou des choses bien particulières et qui soient appliquées sur le terrain pour montrer directement aux enfants.
Et donc là, on vient actuellement, qu'est-ce qu'on peut venir cueillir chez vous ?
Tout de suite, ce qui plaît bien, c'est les tomates, hein, comme ça on peut avoir des tomates bien fraîches et bien mûres. Donc les tomates, après, nous on essaye d'avoir des variétés comme des cœurs de bœuf, des cornues, des jaunes, des vertes. Donc des tomates vertes, mais qui sont mûres quand elles sont vertes. C'est une variété comme ça. Bon, après, la tomate en général, les poivrons, les aubergines. Ce qui plaît bien tout de suite aussi, c'est les haricots. Parce que bon, haricots, quand il est ramassé bien frais, c'est intéressant.
C'était Jean-Louis Four sur RCF pour les Jardins de Batouin. qui se situent donc entre Sébaza et Gerza et sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h pour ceux qui sont intéressés à cueillir des fruits et légumes. La table de Clémence. Nous allons donc parler maintenant du quinoa, le produit bio qui fait peur. C'est une pseudo-céréale qui fait partie de la famille des betteraves et des épinards. Elle est cultivée traditionnellement depuis plus de 5000 ans sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud. C'est un des aliments de base de l'alimentation inca, avec le haricot, la pomme de terre et le maïs. Elle est sans gluten, très digeste, pauvre en lipides, mais très riche en fer et en protéines. Elle contient tous les acides aminés essentiels à la vie humaine. Le quinoa peut remplacer facilement le riz et la semoule dans toutes vos préparations. Il faut surtout bien la rincer pour éviter toute trace de saponine et ensuite la cuire 10 à 20 minutes dans un grand volume d'eau. Ensuite, vous allez pouvoir en faire tout ce que vous voulez dès le petit déjeuner. Vous allez pouvoir l'assortir de sirop d'érable, de raisin sec pour un petit déjeuner très équilibré. Sinon, vous pouvez aussi l'assortir en taboulé avec des tomates, de la menthe, un peu d'oignon. Et c'est très frais et très agréable en été. Moi, je fais également une petite salade avec du thon, des carottes, des champignons et des échalotes, assaisonnée d'un petit peu de jus de citron et d'huile d'olive. C'est un vrai régal pour toute la famille. Si vous voulez davantage de précisions sur le quinoa, vous pouvez visiter le site biogourmand de Valérie Cupillard. C'est une véritable mine en la matière. Et pour tous les allergiques au gluten et aux produits laitiers, c'est vraiment une source d'inspiration infinie. La table de Clémence. Maintenant, je vous propose l'agenda gourmand de septembre. Tout d'abord, on peut commencer du 4 au 13 septembre par la foire internationale de Clermont-Cournon à la Grande Halle. Vous y trouverez des shows culinaires avec les toques rebelles pour cuisiner la fourme d'Ambert. Vous y trouverez également la ferme du Massif avec la présence des maraîchers d'Auvergne, dont Jean-Louis Four que nous avons rencontré tout à l'heure, et de professionnels du monde agricole. Le 5 septembre 2010 aura lieu également la 16e fête européenne de l'ortie et la 4e journée du miel à Saint-Ignat. Le 12 septembre, à Pont-du-Château, vous pourrez également vous promener à la foire écobiologique départementale avec les producteurs bio de la région sur le thème « Produire et consommer bio localement ». Le 19 septembre, à Saint-Bosire, vous avez ensuite une fête de l'oignon. Le 25 septembre, à Marat, vous aurez la foire saveurs et parfums avec marché, brocante, artisanat et gastronomie. Enfin, le 26 septembre, à Saint-Gervais d'Auvergne, la 10e foire écobiologique bio-nature en Combrailles vous attend, avec entre autres de nombreuses choses, des balades avec un botaniste naturopathe pour découvrir et cueillir les plantes sauvages de notre région. N'oubliez pas, évidemment, de consommer en septembre des haricots verts, puisque c'est la fin de la saison, des tomates, des aubergines, des choux-fleurs. Les courges font leur apparition, citrouilles et potimarrons, courges spaghetti, à découvrir avec les enfants. En fruits, il y a évidemment des prunes de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, des pommes, des poires, des figues, des mûres, des pêches de vigne, des noix et des raisins. Septembre, c'est vraiment la fête des fruits. Voilà, c'était l'agenda pour ce mois de septembre. Nous nous retrouvons tout de suite après une petite pause pour une lecture du livre Bazar Magyar de Viviane Chocas. Mange encore un peu. Meg Gisère, pourquoi non? Ça n'est pas bon? Tu n'aimes pas? Clara, n'aime Tetsit Neked? Ça ne lui plaît pas. Peter, elle n'aime pas ça. Jésus Maria, elle n'aime pas ça. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer? De la carpe farcie? Du foie d'oie aux champignons? Un poulet au paprika? Du roulé au pavot? Des boulettes de prunes? De la purée de châtaigne? Si, tu aimes? Alors tiens, prends ma belle, prends ma chérie, mon cœur d'or. Serre-toi un peu plus, un peu mieux. T'échecs, t'échecs. Les unes après les autres, elles m'ont enrobée de ce refrain. Faire plaisir, pour elles, c'est faire manger. Avec leurs mains travailleuses et sèches, je les vois qui étalent le beurre, pétrissent la farine humide, roulent les pâtes, cassent les noix à la force des poings, tapotent les tamis, allument les fours, ces vieux fours de fonte dégorgeant de graisse. Je les perçois qui relèvent la jupe de leur tablier blanchi, épongent la sueur sur leur front, plus bas le long de cette rigole au seuil des lèvres qu'on nomme l'empreinte de l'ange. Mes anges, mes vieilles, mes ridées, mes édentées. Une troupe de vieilles femmes magyares se presse contre mon cœur. Ce sont toutes ces danseuses de campagne que j'ai découvertes aux portes de leurs fourneaux. Les mêmes se reproduisant de village en village. Celles qui avaient bien connu mon père, ma mère, dans leur insouciante enfance, leur turbulente jeunesse. Voisines, tantes, bonnes, nurses, doctoresses, sur le front desquelles je posais le calque mal ajusté du visage de Martha, ma belle inconnue, d'Ilona, ma secrète, toutes femmes joyeuses demeurées au pays, les mêmes au poste, fidèles, travaillant un sol meurtri, une vigne exsangue, qui sous leurs doigts forts pourtant un beau jour avait refleuri. Ces cuisinières accueillantes, unanimement soucieuses de me faire épaissir, m'ont toujours offert en partage ce qu'elles avaient de plus sûr, de plus solide, de plus riche, de plus nourrissant, un rakot palinksinta. Posez une première couche de crêpes encore tiède et moirée, une seconde de noix pilées préalablement battues en crème dans de l'œuf et du sucre. Montez une troisième strate de crêpes, une quatrième de noix et ainsi de suite. Jusqu'à 9 étages de crêpes. De couche en couche, vous édifiez un gâteau bordé comme le lit d'une toute première jeune fille, aussi résistant que la robe des paysannes dont le drap lourd à travers ce petit pays ondule pourtant avec grâce au rythme de la danse. Le miracle du rakot palinksinta tient à l'incroyable légèreté de la pâte à crêpes, qui plisse en ses rebords comme la robe des pois de senteur. C'est un gâteau extraordinairement digeste en dépit des apparences, qu'on ne peut cuisiner et avaler que lorsqu'on croit encore à tout ce qui reste maternel, grand-maternel, à tout ce qui reste. Ce dessert qui réchauffait mes os longs d'adolescente, les unes l'enrichissaient parfois d'un étage complémentaire de copeaux de chocolat, les autres de confitures de pommes, de fromage blanc, poussaient jusqu'à couvrir le tout de blancs en neige savamment dorés au four. On ne peut pas acheter un rakot palinksinta. Même chez Madame Souba, je n'en ai jamais trouvé. Il est fait maison et se déguste encore chaud. Quand elles ont disparu au tournant de leur vie, les pipis, les guizous, les bossinénis et les autres grandes tantes du XXe siècle, mes maigres archives hongroises, elles ont emporté leur tour de Babel chargée de crêpes. Mais là-haut, quel festin! Je me suis inventé un chemin qui grimpe par-delà les nuages et me permet de les apercevoir tandis qu'elles soulèvent leurs jupons pour se poser confortablement sur le banc. Peu à peu, j'ai pensé qu'elles y parvenaient toutes, les Hongroises aux joues parfumées de sindoux, mais les autres aussi, ces vieilles dames qui ne cessent de m'abriter en France de leurs paumes ridées et tellement douces, ces femmes qu'adolescentes je volais pour quelques heures à mes copines de collège, les Hélène, les Rose, les Alice, les Amma, les mamioles, les mamijos, toutes ces grand-mères de substitution que je me formule, ne serait-ce que le temps d'un après-midi, elles se retrouvent sur un banc, mon banc des grand-mères. Et les voilà qui parlent mode, chiffon, recettes de cuisine, bien sûr. En quelle langue, me demandez-vous? Elles s'expriment dans toutes les langues. Voyons, hongrois, français, italien, arabe, espagnol, hébreu, pour ce que j'en perçois, et se comprennent. Parce que ces vieilles ont appris que la langue n'est qu'un voyage de l'âme. Elle s'adapte aux conditions extérieures. Elle se transforme, elle invente ou copie, c'est selon. La langue traduit nos vies. Mais quand on se tait pour toujours, quand s'échappent les mots de nos visages chancelants, j'ai envie de penser que demeure en haleine et dans la bouche du vent qui nous soulève la trace odorante de tous nos appétits, le bouillon de nos aventures, le caramel de nos baisers, le miel de nos écorchures. Des parfums qui se fichent éperdument des frontières, des saveurs qui fondent sous la langue, par-delà tous les vocabulaires. Mes vieilles compatissent, là-haut, de nous qui cherchons, mesurons, pesons encore nos mots. mes vieilles ouvrent leur bouche et se gorgent de racotte palingsinta, de ces couches voluptueuses de crêpes incrustées de noix, sans avoir peur de grossir, de trahir, après des vies de labeur, elles qui jusque-là ne s'asseyaient jamais, ont enfin le temps de manger et d'en rire. La table de Clémence.